Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, jeudi de l'économie spéciale innovation. Il y a la dernière fois à l'occasion de ces jeudis spécial innovation, nous évoquions le thème peut-on encore innover sur Internet? On va d'une certaine façon aller plus loin puisqu'on va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Où ça nous mène? Quelles sont les applications qu'on peut en attendre? C'est un sujet très vaste et nous allons en parler avec nos deux invités qui sont aujourd'hui François Casal et Jean-Marc Bouvet de l'Alliance Stratégique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
De l'Agence Stratégique, pardon. Oui. Bonjour.
Bonjour.
Un petit mot pour vous présenter, François Casal, vous êtes donc professeur à HEC Paris et vous connaissez bien les Outre-mer parce que vous y menez régulièrement des missions, des formations, c'est bien ça? Et la Calédonie, vous connaissez bien aussi, hein?
Absolument, et j'ai l'opportunité d'y passer un mois par an, donc c'est assez significatif, depuis 5 ans.
Et pourquoi vous vous intéressez particulièrement à l'intelligence artificielle?
Parce qu'aujourd'hui, je suis professeur de management et de stratégie et on est dans un moment tout à fait singulier où la grande masse de données et la technologie permet d'augmenter la capacité décisionnelle des dirigeants. Et donc, professeur de management, évidemment, je suis absolument obligé de m'intéresser à ces thèmes-là.
Et on aura l'occasion de voir si on est donc obligé aujourd'hui de faire référence à ces notions-là pour diriger une entreprise, si la Calédonie a les capacités aussi de suivre le mouvement qui se génère au niveau mondial, parce que c'est un phénomène mondial. C'est peut-être bien, avant ça, Jean-Marc Bouvet, de resituer un petit peu l'intelligence artificielle aujourd'hui en Calédonie. C'est peu de choses, mais ça commence à frémir.
Alors, comme partout, l'intelligence artificielle est déjà là. Ça fait partie des termes quand même qu'on a l'impression de voir arriver directement de la science-fiction. Or, on a déjà des choses qui sont en train de se développer. On parle d'intelligence artificielle. On parle plus facilement d'ailleurs de big data. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, et François Casal fait partie des personnes qui en parlent souvent, on a quand même un vrai sujet sur cette question-là. Et aujourd'hui, les entreprises s'y intéressent. Maintenant, beaucoup de gens ignorent encore ce qu'il y a derrière et surtout ce que l'on peut en faire. Et donc là, l'idée aujourd'hui, pour nous, c'était de voir quelles sont les différentes applications concrètes, par où ça commence, et puis surtout peut-être où on en est aujourd'hui réellement. Est-ce qu'on est très en retard ou au contraire, est-ce qu'on va peut-être pouvoir rattraper ce retard?
Alors peut-être, François Casal, il est bon au début de cette émission de définir ce qu'est Big Data, dont on parle beaucoup aussi, et ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que ce sont deux choses distinctes finalement.
Oui, absolument.
Même si elles sont corrélées, évidemment.
Elles sont liées. Alors peut-être pour commencer par intelligence artificielle, parce que finalement c'est une très très vieille notion. La définition date de 1956.
Et c'est pas si vieux que ça, je m'attendais à plus ancien.
Ouais, quand même, parce qu'on a, comme on l'indiquait en début d'émission, on a l'impression que c'est quelque chose qui vient d'arriver, qui émerge, et en fait, c'est la science des programmes informatiques intelligents. Alors, la grande différence, finalement, entre 1956 et aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, aujourd'hui, on a une grande masse de données qui est le moteur de ces programmes intelligents. Et puis surtout, c'est là qu'il y a une rupture, c'est la capacité de traitement informatique des ordinateurs est aujourd'hui sans commune mesure avec la puissance des ordinateurs d'aujourd'hui. J'ai une anecdote souvent qui est assez intéressante. Le smartphone qui est devenu un outil du quotidien même de nos enfants, aujourd'hui, le moindre smartphone a plus de puissance informatique que l'informatique de la NASA en 1969, lorsque les hommes ont marché sur la Lune. Et donc, ça, c'est un premier point.
Donc, l'émergence de l'intelligence artificielle n'est finalement possible que grâce aussi à une amélioration des outils de traitement.
Absolument, parce que au niveau scientifique, c'est-à-dire les modèles mathématiques qui font fonctionner cette intelligence artificielle sont des modèles qui sont extrêmement anciens. Les réseaux de neurones dont on parle, qui ressemble un peu au traitement du cerveau humain, le concept mathématique date de 1943. Donc en fait, le sujet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf deux faits, la puissance de calcul et le phénomène big data que vous évoquiez, qui est l'explosion de la production des données sur la planète. Alors là aussi, peut-être une ou deux idées sur la question. Mais aujourd'hui, la production de données annuelle, c'est comme si chaque humain de la planète produisait chaque jour un DVD de données. Ceci tous les jours.
Et on met beaucoup de données sur un DVD. Hein.
Et ceci doublant tous les deux ans. Donc on est dans une explosion tout à fait exponentielle des données qui rend possible cette intelligence artificielle.
Jean-Marc Bouvet.
Alors justement, il y a la question de la donnée, il y a la question du traitement de la donnée. Et je pense que vous allez peut-être aussi nous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a un intérêt très poussé sur ça, c'est qu'aujourd'hui on traite plus de données. Et puis il y a l'applicatif, donc qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? Il y a beaucoup d'objets connectés, ça fait partie des mots en ce moment très à la mode sur les dossiers, on parle de Google Home, on parle de différentes choses comme ça, de la voiture connectée, mais il y a des applicatifs qui sont peut-être un petit peu plus, j'allais dire, proches de nous. Et là, il y a un nom qui nous vient, alors il y a un nom si on est américain, mais si un nom c'est, on est français, c'est Barack Obama, Emmanuel Macron. On a parlé de marketing politique. Alors, il ne s'agit pas d'un jugement sur les hommes, il s'agit d'une façon de faire la campagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont le big data et la façon dont on traite la donnée a impacté finalement un champ public tel que la vie politique et une campagne électorale?
Oui, alors, toujours en partant du big data, il faut savoir que sont ces données du big data. Et en fait, 80% de ces données sont ce qu'on appelle des données non structurées. Et en fait, les données non structurées, il s'agit de sons, d'images, de vidéos, mais surtout de textes. Et en fait, aujourd'hui, une des principales applications de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle sémantique, ou le traitement automatique du langage naturel. Mmh. Et donc aujourd'hui, d'abord Barack Obama, puis Emmanuel Macron, d'ailleurs avec une start-up française dans les deux cas de figure, ont été capables d'analyser les comportements des citoyens, des électeurs.
Leurs attentes.
Mais ça veut dire finalement qu'ils ont bâti leur campagne pour répondre aux attentes des électeurs, ouais, ou pour mettre en avant leurs propres convictions?
Ouais, alors on entre dans un autre sujet qui est un sujet politique particulièrement intéressant, c'est-à-dire doit-on répondre aux attentes des électeurs lorsqu'on est un homme politique ou une femme politique? C'est un débat d'apéritif
mais
intéressant.
Mais de toute façon, c'est un débat sur l'utilisation en général de l'intelligence artificielle.
Exactement.
Et big data, hein.
Voilà. Mais en tout cas, ce qui est tout à fait en rupture par rapport aux pratiques traditionnelles, c'est que souvent, lorsqu'on fait des sondages politiques ou des études de marché dans les entreprises, on va poser des questions à des personnes qui vont faire un certain nombre de déclarations. Aujourd'hui, en fait, sur Internet en particulier, lorsqu'on cherche par exemple sur Google, en fait, on est sur une approche comportementale. Quelqu'un qui dit je cherche une Clio pas chère à Nouméa. Très probablement, lorsqu'il fait cette recherche sur Internet, il cherche une Clio pas chère à Nouméa. Mmh. Et on est certain de ce comportement. Et derrière l'intérêt, et c'est beaucoup beaucoup d'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir prédire son comportement.
Oui, Jean-Marc Bouvet.
Alors justement, quand on parle de stratégie d'entreprise, et on en parle assez souvent dans cette émission, on parle beaucoup de la connaissance du marché et de la façon dont on est capable de lire les véritables conditions et critères déterminants du marché. Il y a quelques dizaines d'années, on parlait de prospective, on essayait un peu d'anticiper l'avenir, c'était pratiquement de la voyance parfois, c'était un petit peu tombé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que avec le big data, encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est pas bien ou pas bien, mais est-ce qu'on n'est pas capable, de plus en plus, avec les fameuses données dont vous parliez tout à l'heure, de connaître de façon extrêmement pointue le marché avant même de prendre un risque en termes d'entreprise ou pour le coup d'organisation publique également?
J'ai envie de dire que c'est déjà une étape qui est dépassée en informatique à la fin du XXe siècle et on va dire jusqu'à 2010-2015. On était déjà capable d'avoir un bon niveau de description à partir de données d'une situation. En informatique, on parlait d'informatique décisionnelle. C'était des outils extrêmement proches des outils de l'intelligence artificielle qui étaient capables de décrire un phénomène qui pouvait être un phénomène commercial, un phénomène de gestion, un phénomène industriel. La rupture aujourd'hui, elle n'est pas tellement dans la description. Encore que on peut traiter ces fameuses données non structurées, ce qui était difficile précédemment, mais surtout, c'est là qu'il y a vraiment une rupture, c'est qu'on peut entrer dans ce qu'on appelle un management prédictif. Un exemple peut-être tout à fait singulier et intéressant, moi, sur lequel je suis amené à intervenir. Je suis officier de réserve de gendarmerie et j'interviens pour la direction générale de cette noble institution qui a développé un modèle prédictif de vol de véhicules à 24 heures. Donc aujourd'hui, vous voyez tous les enjeux d'une telle modélisation, c'est que derrière, l'orientation des patrouilles des forces de sécurité publique vont être orientées dans les zones dans lesquelles la prédiction indique qu'il va y avoir un vol, et le taux de réussite est de 80% de ce genre de prédiction.
Ça fait penser à un film, hein, je crois, avec Tom Cruise, c'est ça, Minority Report, hein, voilà, où on était capable de se mettre dans la situation avant que les faits délictueux n'arrivent.
Avec un modulo, c'est que on n'est pas capable et on ne sera jamais capable, en tout cas pas dans un horizon humain à mon sens réaliste, de prévoir le crime d'un individu en particulier.
Alors, François Casal, cette application, cette utilisation du Big Data, cette accélération de l'utilisation par l'intelligence artificielle ou les systèmes neuronaux, etc., en Calédonie, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Est-ce qu'on est entré dans ce mouvement mondial ? Est-ce qu'il y a du retard ? Est-ce que finalement, c'est aussi, j'allais dire, une utilisation de tout ça qui est réaliste à l'échelle de la Calédonie ?
Tout à fait. Certains acteurs ont déjà initié des démarches, notamment des démarches industrielles. Il y a pratiquement un an, jour pour jour, je réalisais une conférence sur ce sujet avec le directeur informatique de la SLN, qui expliquait comment cette grande entreprise de Lille est capable, notamment sur des sujets de maintenance prédictive ou d'optimisation industrielle, d'utiliser des technologies les plus innovantes, big data, prédictif, sur l'amélioration de la productivité dans les sujets industriels du nickel, qui sont évidemment très très importants sur le territoire.
Mais là, on est sur des grosses entreprises. Pour des entreprises, on va dire, plus PME, on sait que le tissu calédonien est essentiellement composé de petites et moyennes entreprises. Est-ce que cette intelligence artificielle est aussi déclinable au sein de PME ?
Oui, alors plutôt dans des sujets de commerce, avec une véritable opportunité, c'est qu'en fait, au sens de Google en particulier, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme un territoire, un pays à part. Et donc, on peut isoler les attitudes, comportements et requêtes sur Internet extrêmement spécifiques de ce lieu, et derrière en tirer un certain nombre d'études ou d'enseignements. Et les premières missions de conseil ont été réalisées en Nouvelle-Calédonie auprès d'entreprises plutôt modestes.
Avec un marché pourtant qui est très restreint, hein, puisqu'on sait quelques 260 000 personnes, en gros, ça reste un marché restreint.
Avec un marché restreint, mais en fait avec des produits de grande consommation qui permettent d'ores et déjà d'envisager, d'améliorer, d'affiner des stratégies commerciales.
Jean-Marc Bouvet.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une question qui agite justement la Calédonie depuis un certain temps, c'est la question de l'après-nickel. Et beaucoup comparent le data et le phénomène du Big Data à la même révolution que le pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager que le Big Data offre un après-nickel par une meilleure exploitation du marché ou par le développement de nouveaux services, de nouvelles applications, au-delà des applications industrielles dont vous avez parlé ?
D'abord, on a la preuve que c'est possible. Si on regarde les grands leaders internationaux, les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui sont des entreprises qui traitent de la donnée et qui vont valoriser cette donnée au travers d'outils, de logiciels ou de machines. Aujourd'hui, si on considère la valorisation cumulée des GAFA ou des GAFAM, si on inclut Microsoft, elle est pratiquement le double de celle du CAC 40 en France à partir de ces 5 entreprises. Donc aujourd'hui, effectivement, dans une perspective historique, la valorisation boursière, ça a été le pétrole au XXe siècle. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui traitent la donnée. Donc ça, c'était peut-être une remarque liminaire. En Nouvelle-Calédonie, moi, je pense qu'on aurait des secteurs où cette valorisation de la donnée pourrait créer de la richesse. Un, me semble évident, c'est celui du tourisme, qui pourrait être un complément du business model du nickel, sous réserve peut-être d'une volonté que ce soit le cas. Mais là, je pense qu'on entre dans d'autres considérations.
Tout à l'heure, vous disiez que la France était bien placée sur l'intelligence artificielle d'une part, mais également sur le big data. Est-ce que aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie pourrait utiliser ou développer un savoir-faire et rayonner dans la zone pacifique, puisqu'on a eu le président de la République qui nous a parlé de l'axe Indo-Pacifique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'on devrait sans doute, sur lesquelles on devrait attirer l'attention finalement des pouvoirs publics et plus largement des acteurs économiques ?
Évidemment, oui, avec un certain nombre de réserves. Et la réserve que je vais évoquer, elle s'applique finalement à tous les territoires et à toutes les industries. Le sujet aujourd'hui, c'est la compétence. C'est-à-dire qu'il faut acquérir de nouvelles compétences. Et le sujet, je pense, en Nouvelle-Calédonie, c'est d'imaginer quelles seraient les structures universitaires ou privées qui vont permettre cette élévation de compétences pour permettre à des Calédoniens de développer un certain nombre d'applications ou de services à valeur. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être la principale difficulté.
J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'intelligence artificielle, l'utilisation de Big Data, sur une réflexion un peu plus fondamentale, parce que finalement, ça l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies, hein, pour faire bref, ça donne une image de l'entreprise qu'on pourrait voir à deux vitesses. On peut avoir une image, justement, on utilise le Big Data, on utilise l'intelligence artificielle pour affiner son marché, pour etc., etc. Et il y a une approche très, on va dire, très froide de l'entreprise, de sa rentabilité et de sa réussite. Et puis, on dit, on se passe un peu de tout ça, mais on bâtit sur l'humain, parce que la société, c'est aussi une petite communauté, etc. On est peut-être moins performant, mais on fait du bien à une plus petite échelle. Est-ce que là, il n'y a pas deux visions de la société, deux visions de l'entreprise qui s'affrontent par le biais justement du développement de l'intelligence artificielle et du big data?
De toute façon, ces deux visions, elles se sont opposées indépendamment de la technologie. Donc je crois qu'aujourd'hui, le sujet, il n'est pas l'émergence de cette nouvelle technologie. En ce qui me concerne, et c'est une vision assez personnelle, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle peut être dans une perspective où on veut valoriser l'humain, et elle est vraiment une opportunité. J'aimerais évoquer peut-être un exemple local que moi je trouve particulièrement intéressant avec une grande organisation qui est l'OPT. Aujourd'hui, dans la relation client de l'OPT, sur des choses extrêmement simples, perte de code, problème technique avec son mobile, aujourd'hui on a une entité téléphonique qui existe, avec des réponses souvent basiques à des questions toujours les mêmes et donc beaucoup de fatigue pour les collaborateurs. Un des projets de l'OPT est de développer un chatbot, donc un robot conversationnel, justement.
En gros, on va parler avec une machine, quoi.
Voilà, on va parler avec une machine. Ce qui va permettre aux collaborateurs, finalement, peut-être, ce qui est le projet de l'OPT, de s'élever en compétences, de permettre à ses collaborateurs de monter en compétences dans la relation humaine et de laisser les machines traiter des questions basiques, fatigantes, et eux, les machines ne sont pas fatiguées dans ce genre de cas.
Jean-Marc Bouvet.
Justement, vous parliez des métiers tout à l'heure, et ça, je pense que ça fait sans doute partie des grands enjeux. Il y a un métier dont on pourrait parler maintenant, c'est le fameux data scientist, le scientifique des données. C'est un profil un peu particulier, parce qu'il doit être bon sur plusieurs domaines. Est-ce qu'il en existe, d'abord, qu'est-ce que c'est? Si vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Et surtout, est-ce qu'on en a en Nouvelle-Calédonie, ou pas? Est-ce que ça se développe? Il y en a assez? Comment on peut créer un peu plus, peut-être, de profils comme cela?
Alors, d'abord, de quoi s'agit-il? Ouais. C'est des profils hybrides, effectivement, assez compliqués à trouver, puisqu'en fait, ils allient deux compétences de haut niveau. Une compétence informatique, donc capacité de développer dans des langages de programmation relativement spécifiques. Et surtout, et je pense que c'est là qu'est le ticket d'entrée intellectuelle difficile, ouais. C'est un niveau en mathématiques, puisque finalement, derrière... le sous-jacent de l'intelligence artificielle, ce sont des modèles mathématiques.
Les fameux algorithmes dont on parle souvent.
Un certain nombre d'algorithmes mathématiques, pas forcément très récents, mais qui demandent une expertise mathématique qui est très au-delà du baccalauréat, souvent des niveaux master. Donc il faut une double compétence de niveau master en informatique et en mathématiques. Donc c'est des profils rares, extrêmement rares en Nouvelle-Calédonie, eu égard à la taille du territoire. Mais... aussi très rare dans les grands pays. Aujourd'hui, on a vraiment un des sujets du développement de l'intelligence artificielle, c'est la capacité des pays, des États aussi, hein, à former suffisamment de data scientists pour alimenter des innovations variées dans tous les domaines humains. On parle beaucoup d'entreprises, mais je pourrais parler de médecine, de régulation du transport, de domotique, de...
Toutes les applications sont multiples.
Toutes les applications, tous les métiers humains sont potentiellement concernés par cette révolution.
Jean-Marc Bouvet.
Justement, sur la question des métiers, on a beaucoup dans le prolongement de science-fiction, la concurrence entre l'homme et la machine. Il y a quelques années, moi je m'en souviens, à l'époque j'étais encore à la fac, on parlait de la fracture numérique. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une fracture qui va se faire? Est-ce que finalement... C'est plutôt ça ma question, on n'a pas le devoir d'évoluer, parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, on le voit. Quel est le défi pour l'éducation et les personnes en général, pour la jeunesse finalement?
Énorme défi, une entité de l'État qui s'appelle France Stratégie, qui est une entité de prospective de l'État, a rédigé et publié il y a quelques mois un rapport intéressant à ce sujet sur la prospective, sur l'impact de l'emploi de l'intelligence artificielle. Alors... plusieurs études circulent dans le monde. Une avait été citée lors de la campagne présidentielle en France, qui disait la moitié des métiers vont être supprimés. Comme vous le notiez, certains métiers vont être supprimés, d'autres vont être créés. Mais France Stratégie pense que l'impact va être de 5 à 10% de destruction de l'emploi net. Et donc effectivement, derrière, on voit qu'il y a un enjeu social capital. Parce qu'aujourd'hui, ça signifie que la résorption du chômage semble impossible avec l'arrivée de ces technologies. Et derrière, il y a tout un équilibre social à réinventer, mais c'est un sujet plutôt politique.
Mais ça va détruire des emplois, mais ça va aussi en créer d'autres, nécessairement. Enfin, ça va en générer d'autres.
Il s'agit de solde net.
Oui,
c'est-à-dire que c'est le solde net entre les nouveaux emplois créés et les emplois traditionnels détruits.
C'est-à-dire que c'est quand même, au final, beaucoup de destruction.
Au final, c'est une destruction qui est quand même, semble-t-il, très significative. et qui va amener à repenser aussi la société dans son ensemble.
Alors, il y a forcément une question qu'on ne peut pas ne pas se poser lorsqu'on aborde cette question de l'intelligence artificielle, de l'utilisation de big data. C'est la question finalement morale, parce que on se rend bien compte que tout ça a des implications sur l'évolution même de ce qu'est l'homme, hein, la réflexion de ce qu'est l'homme. Alors, vous n'êtes pas un anthropologue, mais vous imaginez que c'est des questions auxquelles vous réfléchissez. On a bien vu au moment de la dérive entre guillemets de Facebook, qui a utilisé des données personnelles pour les mettre sur d'autres réseaux, etc., que ça a créé beaucoup de gêne finalement chez un certain nombre de personnes qui n'imaginaient même pas que les données qu'ils avaient mis sur Facebook puissent servir à ça, même si on leur a répété. Toutes ces questions-là, est-ce qu'il y a une réflexion aussi derrière? Parce que finalement, c'est un visage de la société qui va être peut-être complètement transformé par l'avènement de l'intelligence artificielle.
Oui, évidemment. Et la France, et certains Français sont même en pointe à cet égard. Moi, j'aimerais citer une jeune femme extrêmement brillante et assez charismatique en France qui s'appelle Aurélie Jean, qui est une professeure au MIT, chercheuse dans le domaine médical, et qui a pris une initiative extrêmement intéressante qui a beaucoup d'impact au niveau mondial, qui est la création du serment Holberton-Turing, fondé sur le principe du serment d'Hippocrate, et qui définit un certain nombre de règles morales et éthiques pour les professionnels de l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est exactement le bon positionnement, puisque on est dans un... Les technologies sont neutres moralement, hein, le nucléaire, le génie génétique ou l'intelligence artificielle.
Oui, en soi, la fission de l'atome, c'est pas forcément mauvais, mais l'utilisation qu'on peut en faire, on l'a vu dans certains cas, est potentiellement catastrophique.
Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il y a deux enjeux. Il y a des enjeux moraux, éthiques, et Aurélie essaie de se positionner avec cette initiative sur ce domaine de l'éthique et de la morale. Et puis après, il y a un énorme sujet, qui est un sujet juridique. Donc sur le sujet juridique, la France... a été très très en avance sur ces sujets, et aujourd'hui l'Europe, notamment avec un règlement qui vient de s'appliquer depuis quelques semaines, qui s'appelle le règlement général sur la protection des données,
le fameux RGPD,
alors qui est une grande difficulté pour les entreprises en termes de mise en application, mais qui est une avancée juridique capitale pour protéger justement les individus de l'utilisation débridée de leurs données personnelles. Pour le coup, l'Europe est plutôt en pointe d'un point de vue intellectuel et moral sur ces sujets-là.
Mais en tout cas, il faut avancer de concert, entre guillemets, entre le développement du big data, de l'intelligence artificielle et l'encadrement qu'on pourrait faire de ces pratiques, évidemment.
Hein. À cet égard, d'ailleurs, les deux grands blocs dominants géopolitiques qui sont les États-Unis d'Amérique et la Chine ne s'embarrassent pas d'autant de précautions que les Européens, dont on notera d'ailleurs qu'ils sont totalement absents dans le jeu mondial des entreprises géantes. On a cité les GAFA américains. Leurs alter-ego chinois existent avec Baidu, Alibaba, Xiaomi, Tencent.
Alter-ego ou plus gros d'ailleurs.
Aujourd'hui, c'est pratiquement deux blocs équivalents. Mmh. L'Europe, au milieu de ces deux blocs, est assez démunie.
Jean-Marc Bouvet, peut-être on peut, à propos d'intelligence artificielle, parce qu'on parle de la place de l'homme aussi là-dedans, de parler de la question du choix. Parce que ce que vous nous dites, François Cadet, c'est que finalement, avec toutes ces données dont on dispose, la manière qu'on a aujourd'hui de les traiter rapidement, etc., fait que l'homme n'a quasiment plus d'intervention dans certains secteurs. Il suffit qu'il alimente tout ça et ça fonctionne tout seul. Il y a bien des moments quand même où il faut choisir, Jean-Marc Bouvet.
Oui, une petite anecdote qui est assez amusante par rapport à ça. Tout le monde, j'imagine, a entendu parler de la voiture autonome, la fameuse voiture sans chauffeur qui va se balader toute seule et qui va conduire. Sauf que quand vous et moi, on est au volant, on fait des choix, et ces choix sont régis par des règles, par une morale. Sauf que quand la voiture est autonome, c'est donc une machine programmée par une personne qui va avoir ce cas-là. Il y a une initiative justement qui a été lancée par le MIT, qui est le test la morale machine. Donc c'est assez simple, en fait. Imaginons que on est dans une voiture, sur une voie rapide, hein, la RT1 par exemple, le long d'un petit ravin. Vous avez deux enfants à l'arrière, un petit fond musical, et trois enfants surgissent devant vous à 5 mètres, et vous roulez à 70 km/h. Donc là, dans le programme, option 1, vous tournez, mais dans le ravin, en tombant, vous tuez deux personnes dans le véhicule, et vous blessez le troisième. Option 2, vous tournez pas, vous tuez les trois enfants avec le ballon sur la route. Ce genre de question, vous devez proposer une réponse qui va être acceptable moralement, et surtout... soutenable juridiquement. Et au MIT, il y a trois chercheurs, dont un français de la Toulouse Business School, qui ont fait un petit logiciel qui permet de tester en ligne. Alors, je l'ai fait. C'est assez flippant, pour être sincère avec vous. Ça s'appelle la Moral Machine. On trouve ça comme premier résultat sur Google, justement, pour ne pas les citer, par rapport à ça. Et sans surprise, la plupart des gens privilégient le plus grand nombre de vies sauvées et pour 80% d'entre eux, favorisent l'humain. 80%. Alors, peut-être que c'est ce qui se passe déjà dans la vie de tous les jours, mais le fait de l'écrire et de prendre une responsabilité, en tout cas personnellement, quand j'ai fait le test de la morale machine, c'est assez flippant. Moi, j'écrase un peu tous les chiens, mais les choix moraux qu'il y a derrière sont assez, c'est assez vertigineux, en fait, de se dire que l'homme a un rôle, une responsabilité, et la personne qui décide ne sera jamais directement impactée, ça concerne des millions de vies.
Ceci dit, même si on n'avait pas la machine, le choix à faire au moment où l'accident arrive est pas évident. Si on a le volant en main, si on a les,
si on a
évidemment les conséquences du choix en tête, ça vous inspire une réflexion, François Cazal?
Ça reboucle un petit peu avec le sujet juridique que j'évoquais. Et sous-jacent à ça, il y a un thème aujourd'hui qu'on appelle la transparence des algorithmes. Un des thèmes aujourd'hui, c'est justement ces algorithmes décisionnels hein, qui décident de tuer ou pas les enfants ou de jeter la voiture dans un ravin, doivent être transparents. Et un des risques, ce sont les boîtes noires, puisque aujourd'hui, ces technologies qui sont extrêmement complexes, très difficiles à comprendre pour le commun des mortels, doivent être rendus publics. Un des problèmes avec les GAFA, les Google et consorts, c'est qu'aujourd'hui, on a une opacité totale. En France, au moment où on se parle, il y a un certain nombre de projets de loi qui sont débattus à l'Assemblée nationale, avec un amendement qui a été voté hier, semble-t-il, sur la transparence ou en tout cas certains cas de transparence d'algorithmes. Donc, je pense que c'est un peu la réponse juridique aux risques moraux des machines qui prennent des décisions à la place des humains.
Donc que chacun prenne plus ses responsabilités finalement.
Absolument.
Oui, une question à François Cazal. On sait pas d'ailleurs qu'il existe un site internet qui s'appelle data.gouv.fr qui est un site qui est chargé de regrouper de la donnée brute pour pouvoir permettre aux entreprises justement de la traiter. Est-ce qu'il est envisageable ou même souhaitable d'avoir un data.gouv.nc?
Oui, alors on parle d'open data de manière plus spécifique, c'est-à-dire les données dont on parle, ce sont des données publiques, c'est-à-dire les données d'organisations publiques, gouvernementales, forces de sécurité publiques.
Oui, on n'est pas dans le discrétionnaire.
Ça pourrait être la CAFAT, ça pourrait être l'OPT, ça pourrait être le gouvernement. Alors aujourd'hui, en France, on est un des pays leaders en matière de diffusion des données publiques. Des territoires ultramarins un peu comparables comme l'île de la Réunion viennent de créer leur portail d'open data, et je pense que certaines initiatives ou réflexions néo-calédoniennes envisagent aussi ce genre de possibilités.
Alors à quoi ça sert?
La possibilité, c'est que vous allez pouvoir enrichir des services spécifiques avec de l'information publique. Moi, je vous donne des exemples très simples, mais nous, par exemple, sur le modèle prédictif de la gendarmerie nationale, la prédictivité des vols de véhicules a été enrichie par un fichier qui était un fichier d'éclairage public, puisqu'on s'est rendu compte que finalement les vols avaient plutôt lieu
dans
des endroits sombres, et le modèle a été
mal éclairé,
plus performant par l'ajout dans les données initiales d'informations sur l'éclairage public. Voilà le genre d'application simple.
Simplement une dernière question. On parlait jusqu'à il y a encore peu de fournisseurs d'accès, et c'était un peu vraiment une donnée. Enfin, on utilisait le fournisseur d'accès comme étant un grand patron de l'internet, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, il y a un terme qui se développe, et pas forcément uniquement en France, c'est même plutôt en Amérique du Nord, c'est le fournisseur de données. Qu'est-ce que c'est un fournisseur de données? Comment ça marche? Et à quoi ça sert? Est-ce que c'est une donnée économique? Enfin, voilà. Nous présente un petit peu l'enjeu autour de ça.
Pour moi, il est moins dans les fournisseurs de données que dans les fournisseurs de services. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de fournisseurs, on appelle ça des data providers, qui vont permettre d'enrichir des bases de données avec des informations comportementales. Une entreprise comme Catalina, par exemple, fait du traitement au niveau mondial de tickets de caisse en supermarché et va en déduire un certain nombre d'outils prédictifs.
Ça se niche vraiment partout, donc.
Ah, absolument partout. En revanche, moi, je crois que l'enjeu, il est un peu à cet endroit-là, mais il est surtout sur la fourniture de services d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a deux acteurs qui sont Amazon Web Services, qui est le leader mondial du cloud computing, et Azure, qui est la marque commerciale de Microsoft de cloud, qui aujourd'hui ne gagnent pas tellement leur vie sur le stockage des données, puisque le prix du stockage des données a complètement décliné. En revanche, qui fournissent
sur l'exploitation
des briques d'intelligence artificielle comme des services. Et c'est aujourd'hui là, à mon avis, que se niche l'enjeu principal aussi pour les entreprises, les organisations, les gouvernements. C'est acquérir des briques de services préfabriqués. Alors, toujours le même problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un duopole mondial, Microsoft, Amazon. Les Français, les Européens sont très très loin de ça. Alibaba fait des investissements colossaux sur le sujet. Et il est assez probable que les grands Américains et Chinois vont devenir les fournisseurs quasi exclusifs de la planète en briques applicatives d'intelligence artificielle. Et pour moi, l'enjeu, il se situe plus là que dans l'enrichissement des données.
Pour terminer, François Cazal, je crois que c'est Jean-Marc Bouvet hein, qui a employé le terme de vertigineux. Hein, à un moment, c'est vrai qu'on est là sur l'émergence, en tout cas pour les béotiens, hein, on a l'impression de l'émergence de l'intelligence artificielle. Pour vous, c'est plus de l'émergence, c'est déjà quelque chose qui est actif, etc. Où est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Vers où on évolue?
Il y a deux. Là, on est un peu dans presque la métaphysique.
Oui, oui, oui. Oui. Pour finir, on s'élève un peu.
Pour une conclusion, ça paraît tout à fait bienvenu. En fait, on a deux visions qui s'opposent. Une est portée en France par une grande personnalité qui s'appelle Laurent Alexandre, qui a été patron de Doctissimo et qui est une des principales voix de l'intelligence artificielle, qui a une vision plutôt anxiogène du sujet, imaginant une intelligence artificielle qu'on appelle forte. Aujourd'hui, tout ce dont on a parlé, il s'agit d'intelligence artificielle faible, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de conscience existentielle. Et une intelligence artificielle forte aurait une conscience existentielle avec un risque de domination des humains comme nous dominons les fourmis.
Ou en tout cas, s'il n'y a pas de domination, il y aurait un retrait finalement de la part de l'homme qui laisserait la machine émerger.
En tout cas, la vision de Laurent Alexandre, c'est le risque le risque de la domination des IA, nouvelle espèce supérieure de la planète Terre. À mon sens, le risque est plus limité que ça, même si c'est très très difficile. Pour moi, l'enjeu, il est plutôt de délester l'humain d'un certain nombre de tâches ennuyeuses. Et c'est déjà arrivé. Je ne sais pas si l'expérience calédonienne, elle est comme celle d'un Parisien comme moi, mais aujourd'hui, tous les Parisiens utilisent Waze. C'est de l'intelligence artificielle de très très haut niveau. Ceci nous aide à gérer les embouteillages, à savoir qu'il y a des accidents. Ceci réoriente nos trajets de manière automatique. Et je pense que plutôt, aujourd'hui, on parle d'intelligence amplifiée, c'est-à-dire que toutes ces technologies vont plutôt amplifier les capacités décisionnelles ou les actions des humains en nous déchargeant, comme ça a été le cas au XXe siècle, lors de la révolution industrielle fordienne. Aujourd'hui, dans les usines, ce sont des robots qui travaillent. Et demain, certainement dans les services, ce sera aussi des robots qui vont travailler.
Merci beaucoup François Cazal pour cet éclairage et cette ouverture en fin d'émission sur tout ce qui est le big data, l'intelligence artificielle. Merci Jean-Marc Bouvet.
Merci à vous.
Nécessairement, on pourra en reparler dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années pour voir comment tout cela évolue.
Volontiers, avec plaisir.
Merci et c'est Jeudi de l'économie, Radio Rythme Bleu, spécial innovation sont évidemment, comme chaque semaine, disponibles bientôt sur notre site internet rrb.nc.